Encore plus saluer tout le monde. Effectivement, je pense que c'est bien, comme il y a des visages que je connais pas, de me présenter brièvement. Je suis originaire du canton de Berne, d'un coin un peu excentré. C'est pas le Jura bernois, c'est l'Oberaargau, donc pas loin du canton de Lucerne. Donc, je suis né là-bas dans une fratrie de 6 enfants. J'ai connu assez tôt le Seigneur, dans ma vie. J'ai été conduit en Suisse romande quand j'avais 14 ans et demi à peu près. Puis après, j'ai fait un apprentissage en tant que menuisier. J'ai été engagé dans l'assemblée missionnaire de Routhuil, ceux qui connaissent. Et puis, j'ai rencontré mon épouse qui, elle, est de Saint-Gall. Et voilà, Dieu nous a conduits l'un vers l'autre. Et puis, un peu plus tard, on s'est mariés en 96. Et puis en 98, on a fait une année à l'Institut biblique de Genève en tant que couple à deux. Et puis on a poursuivi, en tout cas moi j'ai poursuivi ensuite avec la formation encore les 2 autres cycles, donc 3 années d'études, mais avec la pratique. Donc c'était sous forme de stage avec des cours. Voilà, il fallait toujours se déplacer sur Genève depuis la France, parce qu'on a déménagé en France en 99. En 2000 est née notre première fille, du coup en France. Elle a 26 ans maintenant. Et puis elle a été suivie par 3 autres filles encore qui sont nées en 2001, 2004, 2007 et un petit garçon qui est né en 2009. Donc je préfère donner les années de naissance, comme ça je suis pas obligé de calculer parce que tous les ans ça change. Voilà. Donc, vous faites le calcul vous-même à peu près comme ça. Vous avez une idée. Donc de l'âge de nos enfants. Notre deuxième fille est mariée depuis février de l'année précédente, 14 février, quelle belle date. Voilà, donc elle s'est mariée le 14 février 2025. Et puis on est devenus grands-parents au mois de janvier cette année. Donc voilà. Ça vous donne un peu une petite indication aussi sur notre vie de famille. Sinon, nous avons travaillé donc en France, principalement avec France Mission, donc qui était, on va dire, l'œuvre partenaire, hein, donc des assemblées missionnaires de l'UAM. France Mission qui a fusionné, c'est devenu Perspective. Donc ça, c'est peut-être une histoire que vous avez un tout petit peu suivie, certains d'entre vous. En tout cas, je faisais partie en fait de la petite équipe des missionnaires envoyée par l'UAM en France. Même si pendant à peu près 8-9 ans, j'avais pas le statut d'être missionnaire des assemblées missionnaires. Ça s'est fait seulement en 2011 et du coup, on est revenu en Suisse. Si je saute un peu certaines étapes, je vais pas vous détailler où on était en France. Vous pouvez toujours venir me questionner à ce sujet après. Mais on est revenu en Suisse en 2022 et on habite le Val-de-Ruz. Au début, on pensait venir avec 2 voire 3 enfants. Finalement, tous les enfants sont rentrés en Suisse. Pour eux, c'était une première. Pour nous, c'était un retour. Mais à vrai dire, c'était aussi un atterrissage pour nous dans une Suisse qui était pour nous un peu inconnue. Voilà, on a aussi découvert, même si on connaissait déjà la Suisse romande, mais c'est quand même pas la France, puis c'est pas la Suisse alémanique non plus. Donc voilà, il a fallu un petit peu de temps pour trouver ses repères, mais ça se passe bien. Et puis on est bien bien installé maintenant dans le Val-de-Ruz. Donc c'est en gros entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, et je suis donc pasteur à l'Action biblique de Neuchâtel, donc pas loin d'ici. Et d'ailleurs, si pendant 2 ou 3 cultes vous n'avez pas dimanche vous n'avez pas culte au mois de juillet, mois d'août, n'hésitez pas si jamais vous voulez venir donc nous rendre visite à Neuchâtel. Vous êtes les bienvenus. Donc je vous invite ce matin. Non pas à parler d'oiseaux. Je sais que certains, ils s'en souviennent. Voilà, certains m'ont dit, ah, mais je me souviens de la prédication, d'une des prédications, parce que je suis quand même venu déjà plusieurs fois. Donc, ce matin, je vous invite à commencer avec une lecture qui rejoint aussi déjà un petit peu certains aspects qu'on a vus, qu'on a entendus. C'est pas le texte de la prédication, mais juste que vous puissiez écouter ce verset. Juste y réfléchir quelques instants, et puis ensuite on passera à la prédication proprement dit, avec un autre texte qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Donc le premier que je vais lire, c'est dans le psaume 46. Psaume 46, et je vais lire le verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je relis et on va juste méditer un instant sur ce verset. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je pense que dans la vie, il y a des moments où ce que nous venons d'entendre, de lire, d'écouter, nous semble peut-être abstrait ou un peu loin. On se dit, mais finalement, est-ce que Dieu domine vraiment? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire du 7 octobre pour Israël, entre autres? Qu'est-ce qui se passe actuellement quand on pense à nouveau à ce mois des fiertés dans le monde entier, y compris en Israël, où il y a cette tendance qui est mise en avant de l'homme qui veut vivre comme bon lui semble, selon ses propres règles. Et puis, il y a dans notre vie, il y a peut-être cette tension entre, je compare ça parfois à un pull, je sais pas si vous avez appris à tricoter, moi j'étais à une période où les garçons devaient apprendre à tricoter, et j'ai toujours été frappé par le côté très beau et visible quand on voit un pull, ben, ça donne un bon résultat. Quand on regarde de l'autre côté, bon, ben, voilà, on sait qu'il y a un sens dans lequel on porte un pull normalement. Pareil pour un tapis tissé. Si vous regardez l'envers, ben, c'est pas le côté que vous allez mettre en avant. Ben, c'est le côté beau que vous allez mettre en avant. Et pourtant, dans notre vie, si souvent, ben, on voit, je dis pas le mauvais côté, mais on voit ce côté qui n'est pas celui qui est le plus attrayant. Celui qui peut même peut-être parfois nous faire peur. On préfère le beau côté, le bon côté, le beau côté d'un pull ou d'un tapis avec des couleurs qui nous égayent et pas le côté où on voit plein de nœuds en fait. Hein. On voit des choses qui, on a du mal à dire mais à quoi ça sert. On connaît dans notre vie ces incidents, parfois ils sont tout petits mais ils sont troublants. Pour nous c'est un souvenir maintenant mais pour notre fille c'est la réalité. Maintenant qu'elle est maman, elle découvre ce que ça veut dire, hein, d'avoir des nuits blanches, des nuits entrecoupées, de se réveiller le matin en étant très fatigué et se dire « mais qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant toute la journée ?» Voilà. Donc, des moments difficiles, avec plein de choses qui se bousculent. Et il y a pire, on le sait. Encore hier, on a rendu visite à un couple. Ils sont des enfants qui sont déjà adultes et ils nous ont partagé un petit peu aussi certains fardeaux qu'ils vivent ou que leurs enfants vivent avec un garçon qui ne suit pas le Seigneur, avec un autre qui, lui, est séparé de sa femme. Ils ne sont pas divorcés, mais séparés. Ou alors encore des tensions dans l'Église et notre propre incapacité de vaincre le péché, de lutter. Je pense à un jeune aussi qu'on a dans l'Église à Neuchâtel qui vit cela. Et notre foi peut prendre des coups par toutes ces situations où on est accablé. Cela peut nous sembler comme, on peut se sentir, je vais le dire comme ça, on peut se sentir comme David devant Goliath. Un peu comme pour ceux qui suivent le foot ou le foot, je sais plus comment vous dites ici, hein, donc la Coupe du Monde, ben, ces petites équipes qui se retrouvent devant des géants, et on sait très bien que ben, en principe, ils n'ont aucune chance, ils ne vont pas aller bien loin. Ou encore cette équipe réduite à 9, ils sont devant 11 adversaires et ils doivent se battre et ils savent qu'ils ont, voilà, ils sont perdus. Quand on prend ce genre de coup, quand on vit ces situations, ce sont des moments qui peuvent être très longs. Ce ne sont pas des incidents mineurs, des situations dramatiques, pénibles, désastreuses plutôt. Notre foi peut se trouver dans l'épreuve. Et quand on relit, en fait, ce verset 11 du psaume 46, et bien d'autres aussi, on se dit, mais est-ce vraiment la réalité? Où est Dieu dans tout cela? Est-il vraiment celui qui domine tout, y compris les nations? C'est un thème, me semble-t-il, qui nous touche de près ou qui peut nous toucher de près. Comment s'exprime concrètement notre foi dans ces conditions? On va regarder un texte qui se trouve pas loin du récit de David et Goliath. David, un homme selon Dieu, on parle à juste titre de sa foi, de ce qu'on trouve dans son exemple de vie. Mais vous savez qui était le meilleur ami de David? Jonathan. Et on va regarder un texte qui nous parle de Jonathan, qui, à mon avis, était tout aussi un homme de Dieu. Alors, il porte pas ce titre dans la parole de Dieu, mais c'était un homme de Dieu dans le sens qu'il avait une foi en Dieu et un attachement à David, on le sait, contre l'avis de son propre père, contre le roi Saül, qui était inébranlable. Et on va lire un texte qui se trouve donc avant le récit de David et Goliath. En 1 Samuel au chapitre 14. On est dans une situation où littéralement, dans le contexte, il nous est dit que la gloire de Dieu était absente. Pour nous, c'est un peu abstrait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le peuple d'Israël ressentait vraiment que Dieu semblait pas être présent. Sa gloire n'était pas présente. Il semblait être en vacances, loin. Et il vivait peut-être une sorte d'abandon. On va lire en 1 Samuel au chapitre 14, les versets 1 à 15, dans un moment donc où la gloire de Dieu est absente. Je regarde juste, j'ai pas de montre. Ça, c'est dangereux pour moi. Donc, j'aimerais juste avoir mon téléphone, si tu peux m'amener, chérie, comme ça. Je vais comme surveiller un petit peu le temps. Lisons 1 Samuel, merci. 1 Samuel 14, versets 1 à 15. Il arriva qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passant jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père, qui était donc le roi. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier qui est à Migron, et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikabod, fils de Phinéas, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les fautes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Une action discrète, secrète même. Jonathan qui s'en va avec son porteur d'armes. Verset 4 et suivant. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à parvenir au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une nommée Botsets et l'autre Séné. Vous allez dans le Jura, vous avez certains passages qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Je pense que vous voyez un peu ce que ça veut dire, hein, des gorges, et puis de chaque côté, il y a ces rochers qui surplombent. L'une, donc, de ses dents était tressée au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au sud vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passant jusqu'au poste de ces incirconcis, donc les Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » Eh bien, dit Jonathan, passons jusqu'à ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous prenions contact avec vous, nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins disent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte derrière moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta, s'en aidant des mains et des pieds, celui qui portait ses armes montait derrière lui. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes fut fatal pour environ une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre, donc un espace très réduit. La panique se répandit au camp, dans la région et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravagés furent également saisis de panique. La terre trembla et ce fut une panique venue de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc, en premier lieu, vraiment, je reviens un peu sur le contexte de cette histoire. C'est vraiment un moment où tout est noir. Les Philistins, c'est un réel danger pour les Israélites. Un grand combat se prépare. Le roi Saül commet une très grande faute, qui explique sans doute pourquoi la gloire de Dieu est absente. Parce que le prophète Samuel tardait de venir le rejoindre, qu'est-ce qu'il va faire au chapitre 13, chapitre qui précède? Il va lui-même offrir un sacrifice que lui, il n'avait pas le droit d'effectuer. Le peuple avait abandonné l'Éternel en choisissant un roi, c'est ce que le texte nous dit un peu plus en amont. Et même lorsque le coffre de l'Alliance est revenu en Israël, c'est encore dans le contexte qui précède notre récit, il n'y a pas eu de réveil spirituel. La situation matérielle est aussi très difficile. On ne peut pas comparer à la situation d'aujourd'hui. Israël, le peuple d'Israël ou le pays d'Israël vit une certaine prospérité. On met souvent cela en avant, hein, avec la verdure, avec toute la technologie, tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas tout à fait la même situation. En 1 Samuel 13, verset 5, nous lisons que justement les Philistins mobilisent leurs troupes pour combattre Israël et ils avaient 3000 chars de guerre, 6000 soldats sur chars, une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers, et ils ont donc pris position à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Au verset 6, les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique. Ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Donc, on comprend quand Jonathan et son porteur d'armes se montrent aux Philistins qu'ils réagissent avec dédain en disant ben voilà qu'ils sortent de leur trou. Ah non, probablement pendant un certain temps, ils n'ont vu personne. Ça me rappelle d'ailleurs, en Picardie, l'une des régions dans laquelle nous avons habité, il y avait une cité souterraine qui a été construite. Alors, cité, c'est beaucoup dit, hein, c'était vraiment des grottes. Mais certains habitants de cette région, ils en avaient tellement marre d'être toujours victimes des guerres, toujours être entre deux fronts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une solution. Et ils se sont vraiment cachés dans des grottes, parfois pendant des semaines, voire pendant des mois. Donc, ils descendaient tout, ils descendaient même les bêtes, et ils vivaient sous terre. Ils se cachaient de cette façon-là. Je reviens à 1 Samuel 13, verset 7. Certains Hébreux franchirent le Jourdain, se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galad. Donc, il y en a même qui se sont expatriés, parce qu'ils voulaient fuir cette situation menaçante. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il n'y avait pas de discours, ouais, on va le faire, on va résister, Non, il tremblait. Il n'y avait toujours en 1 Samuel 13, verset 19, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël. Les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs socs de charrues, leurs pioches, leurs haches et leurs bêches. Lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser leurs aiguillons. C'est pourquoi, le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seuls Saül et son fils Jonathan en possédaient. Donc vous imaginez vraiment dans quelle situation désespérée le peuple se trouve. Et il y a un petit détail ici dans ce texte qui nous montre, mais la démarche de Jonathan, mais on va y venir, hein, on va en parler, elle paraît insensée. Parce que quand il monte, vous avez fait attention comment il monte, c'est lui en premier, et le porteur d'armes, il est derrière lui. Le porteur d'armes est derrière lui, donc Jonathan, il vient, pour ainsi dire, les mains vides, vulnérables. C'est une situation incroyable, et encore une fois, je reviens ici sur le contexte. Au lieu de dominer les ennemis, le peuple de Dieu doit se défendre comme il peut, il se cache, et la troupe qui se trouve avec le roi compte environ 600 hommes. C'est rien par rapport à la troupe qui est en face. Comment peut-on croire? Comment peut-on croire dans ces circonstances? Est-ce possible de voir dans le noir complet? Peut-on voir le soleil dans la nuit? Et je crois que c'est une remarque encore préalable aussi à ce qui va suivre. Rien ne nous empêche d'être réalistes. Nous pouvons et nous devons faire l'analyse de notre vie, peut-être la vie de l'Église, de la société. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et la seule chose que nous pouvons choisir, c'est de ne pas nous arrêter à ce constat, de ne pas nous y arrêter avec des maximes telles que « la fin est proche, il n'y a plus d'espoir, après moi le déluge » ou autre. Je ne vais pas parler ici aujourd'hui d'eschatologie, des choses à venir. Mais parfois je me demande, mais pourquoi on regarde aux choses difficiles qui sont encore à venir et pas à l'aboutissement, à la gloire qui va se manifester, à la victoire de Jésus qui va régner sur cette terre avec ses saints, avec ceux qui lui appartiennent. Pourquoi nous avons un regard fixé avant tout sur le danger qui est réel et les choses difficiles et terribles qui sont devant nous ou devant ceux qui nous suivront? Et nous oublions qu'il y a une victoire éclatante qui arrive, qui est sur le point d'arriver. Celui qui croit, en fait, ne s'arrête pas aux choses visibles. Prenez l'exemple d'Abraham. Il regardait pas sur le pays promis, nous dit Hébreux 11, mais il regardait sur la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Il regardait au-delà de cette terre qui lui était promise. Il y avait un regard sur quelque chose de plus élevé et plus grand. Et c'est ainsi qu'il est aussi, et qu'il doit aussi être notre modèle de foi, que notre regard se porte, non pas sur ce qui se passe sur terre, c'est intéressant et c'est important, mais sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu construit, sur ce qui est à venir. Oui, celui qui croit ne s'arrête pas au noir. Il est conscient que ce qu'il voit aujourd'hui, c'est peut-être encore, et c'est même sûr, c'est l'envers du tapis ou du pull. C'est pas encore ce royaume, cette manifestation de la gloire dans toute sa splendeur. C'est encore pas forcément toujours très attrayant. C'est même souvent difficile à vivre. Mais Hébreux 11, encore une fois, je recite ce chapitre dans le Nouveau Testament. Hébreux 11 nous dit « Croire, c'est posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » C'est difficile de ne pas se laisser arrêter par les choses visibles. Mais la foi, c'est justement cela. C'est se dire, je ne m'arrête pas aux choses visibles. Et Jésus disait à Thomas, vous connaissez cette célèbre phrase en Jean, évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que c'est la description de votre foi personnelle, de ta foi personnelle? Sommes-nous des chrétiens qui avons témoigné peut-être une fois dans le passé notre foi en Jésus, mais lorsque nous traversons ces moments difficiles, lorsque nous sommes devant des questions sans réponse concernant notre vie, peut-être à l'Église ou ce qui se passe dans le monde, est-ce que dans ces moments-là, notre foi est-elle réelle? Est-ce que les autres l'entendent? Est-ce que les autres le voient? Il est possible que tu te dises que ta foi est petite, et là, je peux te rassurer. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous qui se dit, oh, moi, vraiment, ma foi, elle est minuscule. C'est Jésus lui-même qui dit, ça suffit. C'est suffisant. Petite foi. C'est lui-même qui, il n'a pas fait grandir la foi de ses disciples, mais il a dit, si votre foi est comme un grain de moutarde, c'est suffisant. Donc, même une foi petite, c'est de la foi. C'est comme quelqu'un l'a fait remarquer une fois, les Israélites, quand ils célébraient la première Pâque en Égypte, vous pouvez avoir des gens qui mettaient avec conviction, ils mettaient le sang sur les linteaux parce qu'ils avaient une foi inébranlable en Dieu. Mais si quelqu'un, même en ayant un doute, en se disant, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Mais il a fait ce pas d'obéissance. Il a fait comme celui qui avait une foi qui transporte les montagnes. Mais peut-être qu'un père de famille, il a fait ça en tremblant, en se disant, mais moi, je suis pas sûr, je sais pas, mais je vais obéir, je vais y aller, j'ai une petite foi. Hein. Viens au secours de mon incrédulité. Nous avons ce cri de quelqu'un aussi dans le Nouveau Testament. Mais vous croyez que l'ange, il n'est pas passé devant la maison de celui qui a mis le sang avec peut-être quelques doutes ou avec une petite foi? Bien sûr qu'il est passé. C'est pas la taille de la foi qui était déterminante. C'est la foi tout court. Même si c'était une foi, peut-être qu'il se sentait toute petite et qui n'était peut-être même pas sûr que ça allait marcher. Donc oui, notre foi peut être petite. Regardez même la foi de l'apôtre Paul. Jésus dit qu'il a prié pour la foi de Pierre. Et il pouvait la garder même à travers le doute et même le péché quand il avait renié son maître. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore pris la décision de croire. La responsabilité, elle est du côté de l'homme de répondre à l'appel de Dieu, de se repentir. Paul le dit aux Athéniens, c'est le message que nous proclamons encore aujourd'hui. Tout le monde doit entendre cet appel à la repentance. Dieu vous invite. Dieu vous invite à saisir sa main et à recevoir sa grâce, son pardon. Il veut être votre sauveur, ton sauveur, et il suffit de se tourner vers lui. Et de ne pas attendre de venir à Dieu avec une grande foi. Mais de venir les mains vides, presque comme Jonathan, je dirais, quand il s'approche de l'ennemi. De dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien à apporter. Mais il a demandé ce signe d'une certaine façon. Il a cru que si ça se passait de cette façon-là, je peux avancer. Et Dieu fera le reste. On va maintenant arriver justement à Jonathan. Ce qu'il fait est tout à fait significatif. La première chose, après avoir dit que tout est noir, mais que nous sommes invités à placer notre foi en Dieu, à ne pas regarder aux circonstances, mais à saisir par la foi l'œuvre accomplie dans le passé par Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, par laquelle nous pouvons être sauvés, être certains de notre salut, et regarder aussi à ce que Dieu promet. C'est ce regard de foi que je vous ai invité à adopter ou à renouveler peut-être ce matin dans mon premier point. La deuxième chose, et c'est là l'expression de la foi, c'est ce que nous voyons donc chez Jonathan. Si on regarde le verset 6, et je reviens dessus, donc je relis ce verset 6 où Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Si on analyse ce verset, Jonathan est en train de dire que Dieu peut quoi? Dieu peut donner la victoire. Dieu peut donner aussi un signe clair pour savoir ce qu'il faut faire. Ensuite, rien ne peut l'empêcher d'agir. C'est ce que Jonathan dit. Personne ne peut résister finalement à Dieu, ni les Philistins, ni les Israélites. Dieu ne dépend dans ce sens-là jamais des circonstances. C'est ça l'épreuve à notre foi. C'est de considérer que les circonstances que nous vivons, c'est pas un témoignage que Dieu, tout à coup, il serait devenu tout petit. C'est une épreuve à notre foi. Pour que nous puissions dire, mais Dieu, il est toujours le même. Dieu ne change jamais. Dieu est ce Dieu du psaume 46, verset 11. Il est au-dessus de tout. Il trône, il domine sur les nations. Il se rit même des nations, nous dit un autre texte. Et les plus grands de cette ère, qui font n'importe quoi, souvent, et qui peuvent nous effrayer, ils ne sont rien. Dieu peut les remplacer en un instant. Et Dieu peut amener des choses nouvelles là où on ne s'y attend pas. L'histoire de l'Église le montre aussi, même parmi ceux qui ont de l'autorité et qui gouvernent. Jonathan s'appuie tout simplement sur un des attributs de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Jonathan, et on peut le dire donc aussi avec d'autres mots, il demeure dans la parole qui affirme qui est Dieu. Dieu est tout-puissant. Il dépend de Dieu, il est dépendant de son Créateur et il proclame la vérité sur Dieu. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais souligner. La foi, c'est pas forcément savoir ce qui va se passer. En règle générale, c'est tout le contraire. C'est pas non plus placer sa confiance en soi-même dans le fait que, ben, moi j'ai une grande foi. Non, c'est simplement voir Dieu tel que Dieu est réellement. Et je dirais pour nous en tant qu'Église, pour vous en tant qu'Église ici, notre devoir, c'est pas de décrire la nuit autour de nous, mais c'est de comprendre, de réaliser, de découvrir tout à nouveau que notre première vocation, c'est d'être lumière dans ce monde. Et nous le savons, vous le savez aussi bien que moi, que nous, qu'une petite lumière dans une pièce toute noire, elle a une puissance incroyable. Nous, on aime revenir avec des shows, avec des spots, avec, je sais pas, des fumigènes, un nombre, un grand nombre. Mais revenons, regardons ce texte. Ce que Jonathan dit doit aussi nous interpeller. Dieu peut sauver au moyen de quoi? D'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et plus d'une fois, j'ai eu le privilège de servir dans des églises qui étaient fragiles, qui étaient petites. Et je sais que ici à Ben, c'est pas facile. Mais croyez-moi que Dieu ne dépend pas du nombre de croyants. Par contre, chaque vie peut être une lumière là où vous êtes pour rappeler que Dieu est ce Dieu tout-puissant, encore sauveur aujourd'hui. Jésus n'est pas encore revenu pour être juge. Encore aujourd'hui, c'est le temps de grâce et de salut pour l'humanité, pour les Grecs, pour les païens comme pour les Juifs. Oui, Jonathan et l'Église d'aujourd'hui doivent comprendre que Dieu est le même aujourd'hui comme hier et il se manifestera aussi dans l'avenir. Rien ne peut empêcher l'Éternel d'agir. Et si nous analysons, si nous lisons attentivement le livre de l'Apocalypse sous cet angle-là, vous découvrez que Jésus est vainqueur. C'est comme ça qu'il est décrit. Il est vainqueur. Il va achever son œuvre. Il saura garder ceux qui lui appartiennent. La nuit finit par le jour éternel qui approche, et ainsi de suite. J'arrive à un troisième point, et là encore, je reviens sur Jonathan dans notre récit. Jonathan se tient prêt pour le combat et il persévère dans cette bataille, alors que tout le reste du peuple, y compris son père, était caché. Jonathan déclenche Une guerre de libération contre les adversaires. Au début du chapitre 13, nous lisons qu'il a abattu une stèle dressée par les Philistins à Geba. Donc il avait déjà fait quelque chose qui était un affront pour les Philistins. Il joue un rôle central. Il abolit avec cette stèle le symbole de la domination des Philistins sur le territoire de Benjamin. Et lorsque le fils de Saül est décidé d'affronter l'ennemi dans notre récit, il s'approche d'un point stratégique, un avant-poste très bien placé. Nous le savons ici en Suisse comme ailleurs, aussi en Europe, quand vous voyez des châteaux ou des fortifications, bah c'est toujours des endroits stratégiques. C'est des endroits où il y a une vue exceptionnelle, une vue qui permet justement de contrôler et d'agir, d'intervenir suffisamment tôt pour éviter que l'ennemi prenne possession du pays. Jonathan est prêt à monter. Il veut pas forcer la main de Dieu, vous l'avez vu. Il dit, c'est soit comme ça, soit comme ça. Si eux, ils veulent descendre, bah, ils descendront. Mais si Dieu nous demande de monter vers eux, ce qui est plus difficile, parce que là, on va y aller, justement, on doit grimper, on peut pas manier les armes. Alors là, on peut être sûr, Dieu va nous les donner entre nos mains. Est-ce que nous sommes conscients aussi de ce combat de notre foi, combat de la foi chrétienne? Vous connaissez, comme moi, ce texte en Éphésiens 6 qui nous parle de l'armure de Dieu, une armure que Dieu donne. C'est pas dans ce sens-là quelque chose que nous avons à bricoler, à construire. Ce sont des éléments à vivre. J'aime beaucoup cette notion d'une armure qui n'est pas abstraite, mais c'est quelque chose à vivre dans la vie de tous les jours pour être prêt au jour mauvais. Donc c'est pas quelque chose que je vais un peu comme ici en Suisse, hein, avec je cherche le fusil, hein, l'arme, voilà, l'arme, voilà qu'on a à la maison dans un placard. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y a la munition avec, hein, il va falloir la récupérer. Donc, non, l'armure de Dieu, c'est quelque chose que nous avons. Comment? Ah, ils ont la munition avec, quand même. OK. Mais en tout cas, c'est comme dans un placard. On se promène pas tout le temps avec. Par contre, l'armure de Dieu, c'est pour la vie de tous les jours. Et encore une fois, je pense que ce sont là des choses essentielles à vivre comme la vérité. Vous connaissez ces différents termes, hein? La vérité, la justice. Chercher la justice dans les petites choses. Ça nous rappelle aussi le serment sur la montagne. Avoir faim et soif de la justice. Être disponible pour propager la bonne nouvelle. La foi, le salut et la parole. Ajoutons à cela que nous devons connaître notre ennemi et ne pas nous tromper de front. Trop souvent, nous oublions que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, contre la chair et le sang. Et nous voyons dans ceux qui sont opposés à Dieu nos ennemis. Alors ils sont ennemis de Dieu et parfois ils s'opposent aux chrétiens, ils peuvent les persécuter. Mais l'ennemi à combattre, il est spirituel. Et c'est lui qui tient captif jusqu'à un certain point, ceux qui sont opposés à Dieu. L'avant-dernier point, j'essaye d'avancer, il y a encore un petit peu, mais l'avant-dernier point, le quatrième point. Donc Jonathan s'est tenu prêt pour le combat, ça c'était le troisième. Le quatrième, c'est l'unité dans la foi. Et là, je trouve qu'on a encore un inconnu célèbre, alors il n'est pas célèbre dans le sens qu'on le cite souvent. Mais on a ce porteur d'armes. Je dirais, il joue le jeu, mais c'est bien plus que ça. Il s'associe à Jonathan dans cette démarche de foi. Il a une fonction importante et il obéit à son chef. Et je crois que dans l'Église, c'est justement ce dont nous avons besoin aussi. D'être unis dans la foi. Si nous avons parfois des frères et des sœurs qui doutent, ou le regard, il est... Alors, peut-être c'est le nez dans le guidon parce que ben, il y a trop d'occupations, mais peut-être c'est justement de voir uniquement tout ce qui ne va pas dans ce monde. Nous avons besoin les uns des autres pour nous rappeler que Dieu est ce Dieu du psaume 46, verset 11. Il gouverne, il règne, il domine. Nous avons besoin de revenir à la vision que Paul dépeint de Jésus-Christ en Éphésiens 1, ou quand il écrit aux Colossiens. Qui est notre Seigneur et Sauveur? Nous avons besoin de rappeler, de nous rappeler mutuellement et d'être unis dans la foi et dans l'affirmation aussi de tout ce que nous avons déjà reçu en termes de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je suis souvent frappé par cette idée de courir derrière des bénédictions comme s'il y avait des choses qui nous manquaient et cet oubli de cette vérité que tout nous a été donné en Jésus-Christ, littéralement tout. Et ça pose problème parce que si Christ ne nous suffit pas, c'est dangereux. C'est dire que Dieu lui-même, dans son sacrifice et dans tout ce qu'il nous offre en Jésus-Christ, ben que ça nous convient pas ou ça nous suffit pas. Je dis pas que, voilà, on veut forcément dire cela. Mais nous avons besoin vraiment de revenir dans la vie de tous les jours, de nous dire, mais Christ me suffit. Je n'ai pas besoin de des choses en plus. Christ me suffit. Alors que Dieu nous aide à nous unir dans la foi, à être unis dans la foi pour combattre ensemble. Et Paul écrit aux Philippiens, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cela en fait partie aussi. De chercher à vivre, même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points de doctrine, parce qu'il y en a qui sont secondaires, il y en a qui sont difficiles à comprendre, mais si nous sommes unis sur l'essentiel de l'Évangile, alors nous pouvons aussi nous accepter, nous aimer et nous supporter si sur certains sujets nous n'avons pas exactement la même position doctrinale. Et puis, j'arrive finalement au dernier point. Il n'est pas compliqué. Jusqu'ici, dans notre récit, on aurait pu dire « C'est magnifique la foi de Jonathan ». Mais imaginez que Jonathan, au dernier moment, il ne serait pas allé. On aurait dit « Il a cru ?» Oui, mais, sa foi, c'était de la théorie. Jonathan est allé au bout. Il a mis sa foi en action. Dans toute l'écriture, à travers toute l'écriture, nous constatons que la foi suit Dieu dans son action. La foi, c'est obéir. Prenez l'exemple de Noé. Tu veux que je construise un bateau? Je vais commencer à rassembler du bois, je vais commencer à préparer des choses. Mais si Noé s'arrête en cours de route, si Noé, devant les moqueries de la population, à un moment se dit « c'est trop dur », ne serait pas l'exemple de foi que nous avons aujourd'hui dans la parole de Dieu. La foi suit Dieu dans son action. En tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que disciple, nous avons besoin de fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Il est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. Nous avons besoin de reconnaître son appel à imiter Dieu. Non pas pour être sauvés personnellement ou pour espérer sauver d'autres, mais parce que nous sommes sauvés. En tant que disciple, nous sommes devenus des esclaves de la justice. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice. Nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu. Alors, comment suivre Dieu dans son action? Finalement, nous devons reconnaître, psaume 46, encore une fois, que Dieu domine. Dieu agit. Dieu est celui qui conduit le cours de l'histoire. Et nous ne faisons que, entre guillemets, que suivre Dieu dans son projet. Donc, pour être concret, nous avons à veiller. À veiller pour saisir des opportunités. Racheter le temps, vous connaissez ce verset. C'est pas forcément de faire beaucoup, mais c'est de saisir les opportunités. De saisir ce moment où nous voyons, il y a une porte qui s'ouvre et d'avancer par la foi. Et d'obéir à Dieu. D'utiliser le temps à bon escient. Nous avons besoin aussi, et on le voit ici chez Jonathan, de bien connaître Dieu, de nous saisir de qui est Dieu. Son caractère, sa volonté, ses attributs. Dieu est un Dieu tout-puissant, Dieu est un Dieu aussi qui a de la patience. Non, il ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Hein? Si Jésus n'est pas encore revenu, on le sait. Pierre l'écrit dans sa première ou deuxième lettre, je ne sais plus, mais vous trouverez dans une des deux. Il ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais il a de la patience. Parce qu'il veut sauver encore. Il veut que les hommes arrivent à la repentance. Et puis lorsque je constate qu'il ouvre une porte, j'ai à choisir de m'attendre à lui. Pas avancer sur la base de j'étais à l'institut, j'ai appris telle et telle chose, j'ai de l'expérience, j'ai déjà montré que j'avais une grande foi. Non. M'attendre à Dieu. Il ouvre une porte, peut-être pour un témoignage, peut-être pour encourager quelqu'un, peut-être pour interpeller aussi. Et puis, avançons, comme Gédéon l'a fait, dernier exemple que je citerai, avançons avec la force que nous avons. Jonathan n'a pas cherché les armes de son père, il est allé juste avec les armes et son porteur d'armes. Il est allé même devant le porteur d'armes, on l'a déjà dit. Aller avec la force que nous avons demande aussi cette humilité de ne pas aller au-delà de ce que Dieu a prévu pour nous, de nous tenir à ce que Dieu veut pour nous, de ne pas nous laisser décourager peut-être par notre manque de force. Oui, Dieu reste le même. Et vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais même moi qui suis jeune, mes forces faiblissent déjà. Je me sens plus aussi fort qu'il y a encore 20 ou 30 ans. C'est la réalité. Mais Dieu reste le même. Et Dieu continuera à manifester sa puissance dans la vie de ceux et celles qui savent dire comme l'apôtre Paul, ma grâce me suffit. Je compte sur toi et je me laisse aussi surprendre par ton action. Donc si le découragement parfois peut-être vous guette, je vous encourage à lire un livre qui s'intitule La grande vision d'une petite église. La grande vision d'une petite église. Le regard de Dieu sur la vie du chrétien et sur les petites structures est un regard très différent de ce que le monde peut avoir et de ce que nous pouvons parfois avoir. Dieu n'est pas enfermé par le nombre, notre texte nous l'a montré. La foi d'un homme, de deux hommes, Jonathan et son porteur d'armes, étaient suffisants. Ils ont avancé, ils savaient qui était Dieu, ils comptaient sur lui, et Dieu a agi. Que notre action soit donc basée sur la personne de Dieu elle-même, qui il est, et aussi sur son action déjà accomplie. Je vous invite aussi à regarder en arrière, dans vos propres vies, mais aussi dans l'histoire de l'Église, et bien sûr dans le texte biblique, tout ce que Dieu a déjà fait, de nous en réjouir, et aussi de choisir, placer notre confiance en lui pour l'avenir. La plus grande des victoires étant celle accomplie sur la croix. Et je vous invite encore à remercier Dieu pour cette victoire sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans nos faiblesses et dans les moments difficiles que nous pouvons connaître. Oui, notre Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, comme le dit aussi un chant. Non pas dans le sens que tu feras toujours ce qui devrait être fait à nos yeux, mais tu es Dieu, tu es ce Dieu qui n'est pas limité. Ce Dieu qui, encore aujourd'hui, n'est pas assis sur le rebord du monde comme un chanteur l'a décrit. Non, tu es ce Dieu qui est acteur. Ce Dieu qui dirige, ce Dieu qui contrôle, ce Dieu qui domine, Et ce Dieu qui encore aujourd'hui a de la patience, on l'a aussi dit, et nous voulons encore le rappeler. Tu es ce Dieu qui veut encore sauver, parce que tu veux te glorifier. Seigneur, tu vas être le juste juge, mais en attendant, nous te demandons aussi de nous aider à être unis dans la foi, en nous appuyant sur toi, en refusant de nous arrêter de regarder aux circonstances, à ce qui peut être pesant. Et Seigneur, je te demande encore de bénir l'Église ici à Vienne, l'Assemblée missionnaire, mais aussi l'Église avec un E majuscule, les chrétiens dans cette ville, que tu les gardes attachés à toi, que tu les ramènes à toi aussi là où c'est nécessaire, et que nous puissions t'honorer et vivre ici et là les victoires que tu donnes dans nos propres vies, contre le mal, contre le péché, que nous puissions aussi voir des hommes et des femmes encore touchés par ta grâce, être sauvés. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis encore la fin de ce culte, mais aussi ce dimanche et cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Amen.